I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute.
Art plastique.
Arnaud Laporte.
Autour de moi ce soir, Frédéric Bonnet, Sarah Hellermeyer, Anaël Pigeat pour parler ensemble de Lars Fredriksson à l'exposition Mamak de Nice. Variations et décors lumineux d'Eugène Frey, c'est au nouveau Musée National de Monaco. Un coup de cœur de Frédéric Bonnet pour Sol Calero à la Villa Arson à Nice. Et puis Lucille Comeau est également avec nous qui ouvrira le journal de la dispute à la page Art en grève. Nous ouvrons cette émission avec l'exposition que le Mamak de Nice consacre à Lars Fredriksson en collaboration avec le nouveau Musée National de Monaco. C'est la première grande rétrospective pour cet artiste d'origine suédoise qui s'est installé dans le sud de la France en 1960, qui a vécu le reste de sa vie, qui a développé un travail qui s'aventurera, et on le voit bien dans l'exposition, dans bien des formes, aquarelles, collages, œuvres luminocinétiques, expériences sur les fax, les téléviseurs, sculptures en inox, créations sonores, bon, pour un artiste qui en tout cas cherchait notamment à explorer l'espace plastique sous toutes ses formes. Les commissaires de cette exposition sont Hélène Guenin, Cristiano Remoni, Rebecca François et Léa Dreyer. Un premier tour de table tout de suite pour recueillir un premier sentiment, le vôtre, sur cette exposition Lars Fredriksson. Anaël Pigeat.
La redécouverte magnifique d'un artiste qui a passé sa vie à la recherche de l'insaisissable.
Frédéric Bonnet.
La passionnante redécouverte d'un grand perturbateur.
Sarah Hellermeyer.
Une expérience de l'infini dans le fini.
Ça donne envie d'écouter la suite, non? Enfin, moi, oui. On va, avant que vous développiez ces propos, écouter un extrait de la fameuse émission Dim Dam Dom, qui fit les belles heures de l'ORTF. C'était en l'occurrence le 25 avril 1969, et ce sujet de Dim Dam Dom est présenté par Mireille Darc.
Jacques Brisseux a rencontré Lars Fredriksson, sculpteur intellectuel qui expose à Paris à la Galerie des Quatre Vents. Son œuvre, des structures dynamiques à mouvement vibratoire, des images non apparentes qui créent après mémorisation une image personnelle. Ce n'est pas simple. Essayez de comprendre.
Le seul prétexte pour une œuvre d'art, c'est une expression poétique. Mais la poésie, ça existe en notre temps aussi. Dans ce que je fais, par exemple, il y a une poésie, à mon avis, qui est éblouissante. Mais utiliser seulement le mouvement comme moyen d'expression. Par exemple, là, je commençais avec le petit point là, qui se déplace comme ça. C'est la relation entre les indications de mouvement. La seule chose qui m'intéresse, on ne peut pas l'exprimer. Il faut qu'on le sent, le petit point là qui se déplace. Look at me.
Lars Fredriksson dans cette émission de Dim Dam Dom de 69 et maintenant dans cette exposition rétrospective dont Anaël Pigeat va nous faire un rapide résumé du parcours.
Eh bien, l'exposition commence avec une œuvre comme prologue. C'est un relief en inox qui est à la fois gravé, transpercé, tordu, qui est vibrant et miroitant à la fois. On perçoit dans cette œuvre, d'une part, la proximité de Lars Fredriksson avec le monde tangible du dessin, de la gravure et de la sculpture, comme vous le disiez, Arnaud, et puis sa sensibilité au monde spirituel, à la circulation des énergies. On comprend à ce moment-là qu'il nous invite à l'expérience de l'art plutôt qu'à nous interroger sur des questions de représentation. Et puis alors, le parcours commence. plutôt thématique que chronologique, avec une succession d'ensembles d'œuvres qui correspondent chacun à quelques années de production entre la fin des années 60 et la fin des années 90. Cela donne une impression de très grande diversité. En même temps, il y a une vraie cohérence qui se dégage de l'ensemble. La première partie s'intitule « Espaces sidéraux ». On découvre d'abord un ensemble de boîtes lumineuses à la surface desquelles on voit des formes galactiques, pourrait-on dire. Ce sont des ombres de petites pièces métalliques qui sont animées par des moteurs à l'intérieur des boîtes.
Ensuite, du bricolage, hein.
Exactement, du bricolage.
Bien le dire, hein.
Tout
c'est
est totalement une sorte de bricolage
maison,
de génie.
Avec des matériaux assez pauvres à chaque fois.
Absolument, hein. Absolument. Ensuite, donc, ce sont les structures dynamiques dont on a entendu parler à l'instant dans Dim Dam Dom, des châssis tendus de toile blanche sous laquelle ces petites billes se déplacent, également animées par des moteurs qui tracent comme des dessins éphémères sur ces toiles blanches. Sont évoquées les premières grandes expositions d'art vidéo auxquelles Lars Fredriksson participe à la fin des années 60. En face, il y a les écritures subversives, un mur de photographie d'écran de télévision sur lesquels Fredriksson envoyait des fréquences qui dessinent comme des éclairs. C'est peut-être un héritage de sa première vie d'officier radio dans la marine marchande. Il y a un ensemble de gravures sur métallux, comme des paysages abstraits, bleutés, argentés. Il y a enfin une salle d'aquarelle abstraite, pratique qu'il a eue toute sa vie et qui est probablement un souvenir de sa formation à la Grande Chaumière. La deuxième partie est consacrée aux espaces virtuels, donc il y a un extrait de Dim Dam Dom. Il y a des affiches qui évoquent les nuits de la Fondation MAG où Fredriksson est intervenu en enregistrant par exemple les battements de cœur de Françoise Hardy pendant un concert. De très belles vitrines.
Elle était là, hein, sur place, avec
absolument,
lui, avec
oui,
eux
oui,
à la Fondation MAG.
Et c'est ça, hein, et c'est ça que les affiches
montrent. Quelques
montrent.
Photos aussi qui témoignent de, de cette soirée.
Et voilà, et on la voit elle avec Lars Fredriksson et les machines à côté.
Il y a René Koering, enfin il y a des gens vraiment intéressants.
Et ces nuits de la Fondation MAG étaient des moments tout à fait essentiels de la vie culturelle de la Côte d'Azur. De très belles vitrines ensuite sur ses éditions, le travail qu'il a mené avec les écrivains et les poètes, et puis ses collaborations en matière de ballet. Puis c'est le morceau de bravoure, la grande salle avec tous les inox, magnifiquement accrochés, des œuvres qui flottent dans l'espace, qui créent un monde de reflets absolument extraordinaire, quelques peintures abstraites qui font penser à Hartung, même si le lien entre eux n'est pas du tout avéré. Et puis vient enfin le moment des interférences. Alors là, il faut vraiment prendre le temps, dans une grande pièce vide, de ressentir la façon dont la pièce sonore, qui s'intitule « Trio pour retomber radioactive », se déploie dans l'espace et littéralement s'auto-spatialise. Enfin, je ne sais pas très bien comment le dire autrement. Ce sont des sons qu'il a fait avec un compteur Geiger, probablement. Et il faut vraiment, là, éprouver la chose. Il y a ensuite un ensemble de collages, beaucoup plus pop, fait avec des coupures de presse de l'époque, parfois assez drôles. La reconstitution de son studio son, d'abord chez lui, puis à la Villa Arson, où il a enseigné, qui a été un moment important de son existence. Un ensemble de fax, magnifique, réalisé bien avant la démocratisation du fax, qui ressemble à la fois à des peintures abstraites où on voit parfois des fragments d'images, et enfin un ensemble d'œuvres sonores dans des cabinets d'écoute, dont la plus saisissante, à mon goût en tout cas, est le bruit d'un pinceau sur la toile, qui montre que Fredriksson était peut-être un artiste qui cherchait à peindre sans matière.
Belle visite. Il faut dire que l'exposition est extrêmement riche, et de cela nous allons parler à présent. Fadaïk Bonnet.
Oui, il y a énormément de choses dans cette exposition. Moi, ce qui m'a assez fasciné lors de la visite, je connaissais une partie du travail de Fredriksson et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Donc ça, déjà, c'est plutôt un point positif. Ce que je trouve particulièrement intéressant, là, c'est que, ce Fredriksson, il m'a fait l'impression d'être un peu un pirate qui s'empare de toutes les techniques que l'époque a pu lui mettre entre les mains, sans pour autant perdre de vue une recherche plastique et en gardant toujours une certaine idée d'épure et de simplicité. Quand je dit tout ce que l'époque a pu lui mettre entre les mains, c'est la télé, c'est la peinture. Alors la peinture, moi je connaissais pas, je savais pas que Fredriksson avait fait de la peinture. C'est du collage, c'est du fax, c'est pour moi la plus belle salle de l'exposition. C'est une série de dessins, on va appeler ça comme ça, enfin en tout cas d'œuvres graphiques réalisées sur du papier fax par des machines fax militaires, pas le fax domestique hein, comme on a pu avoir à la maison il y a quelques années, et qui sont en fait des transferts de, d'informations produites par des connexions radiophoniques, des informations de presse, des cartes de météo, des cartographiques, dont ils brouillent le signal pour, afin d'influer sur le résultat. Et ça produit des réseaux de lignes qui parfois s'approchent du dessin. J'ai trouvé ça assez assez prodigieux. Quand je parle de piratage, c'est que j'ai l'impression que il a véritablement voulu s'accrocher à tout ce qu'il pouvait toucher sans avec une volonté de, évidemment de, d'aboutissement. Moi, en ayant un regard rétrospectif de critique, je trouve que tout n'est pas intéressant, mais je trouve que les démarches engagées le sont. Par exemple, je ne connaissais pas du tout ces collages réalisés dans les années 60. Je les trouve plastiquement pas géniaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un contenu politique très très marqué dessus par rapport à ce qui se fait à l'époque à côté où il y a beaucoup de pratiques de collage. Je trouve pas ça très très intéressant, mais je trouve ça très bien que la commissaire de l'exposition les ait ressortis et les montre pour remettre tout ça en contexte et donne à lire véritablement un long parcours et un peu une intégralité de ce qu'a été la recherche et la démarche de Fredriksen.
Oui, d'autant que les 10 collages, pour Lars Fredriksen, c'était quand même pas une partie, la partie la plus importante de son travail. Il l'a fait notamment par esprit ludique. Enfin, c'était une période du milieu des années 60 où il récupérait ça dans un cabinet médical. Enfin, c'était vraiment les revues très grand public. Je suis d'accord avec vous pour dire que d'autres collages de la même époque ou antérieurs sont plus intéressants. Mais la dimension, en tout cas, politique est quand même assez saisissante. Et voilà, c'est une salle de l'exposition. Et je suis comme vous, je suis heureux que ces collages y soient, même titre que les autres œuvres. Sarah Hellermeyer, sur cette exposition de Lars Fredriksen.
J'étais de la même manière que Frédéric Hanel, très heureuse de parcourir cette exposition. Il se trouve que je connaissais déjà un peu le travail de Fredriksen par la galerie Fabienne Leclerc, qui représente ton travail depuis 2015. Donc j'avais déjà vu, par exemple, ses bas-reliefs en inox, des fax, des pièces électromécaniques. En revanche, je ne connaissais pas non plus ses peintures, ni ses télévisions, et je dois dire qu'elles m'ont particulièrement intéressée, parce qu'il me semble que là, la volonté qui est celle de Fredriksen, de rendre visible et audible des phénomènes électromagnétiques qui relient entre elles différentes échelles, telluriques, cosmiques et organiques, eh bien, à cet endroit, je la trouve particulièrement efficace. Donc, en quoi consistent ces télévisions? On en a déjà un peu parlé, mais c'est assez complexe de comprendre quel est le mécanisme. Donc, ça consiste à générer des formes sur des écrans cathodiques avec des synthétiseurs de fréquences qu'il a lui-même fabriqués, qui donnent lieu à des sortes de feux d'artifice ou de dessins lumineux qui surgissent des fonds noirs, qui sont toujours en mouvement et qui évoquent des constellations cosmiques, mais aussi des ondes cérébrales ou des organismes même marins qui seraient luminescents. Et donc finalement, que ce soit des peintures, les fax ou les plaques d'inox, ce qu'on voit, c'est que Fredriksen a... C'est comme s'il avait cherché tout au long de sa carrière à capter sur des surfaces et dans des espaces limités un espace vibratoire qui lui est illimité et les dépasse. Et c'est en ce sens-là que sa recherche le rattache à des peintres des avant-gardes historiques, comme Kandinsky et Malevitch, qui sont pour lui des références explicites, hein, et qui cherchaient justement également à rendre, à transcrire sur la surface de leur toile, par des jeux de formes et de couleurs abstraits, des phénomènes vibratoires qui allaient au-delà de la surface des toiles. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que Fredriksen tenait beaucoup à se démarquer de l'op-art et du cinétisme qui lui sont des mouvements contemporains. Parce qu'à ses yeux, ça se réduisait à des phénomènes, à des effets strictement optiques, sans dimension métaphysique. Ce sur quoi je ne suis pas d'accord, mais c'est peut-être ce qui explique aussi qu'il était un peu oublié, parce qu'en fait, il a voulu échapper à toute catégorie artistique. Or, l'histoire de l'art s'écrit aussi à travers ces catégories. Voilà.
Annelle Pijat,
mais
pour enchaîner.
J'allais exactement rebondir là-dessus, c'est-à-dire que ce que je trouve très touchant chez ce personnage, c'est qu'il a en quelque sorte organisé son retrait du monde. C'est quelqu'un qui a assez peu exposé, en fait, il y a une dizaine d'expositions de son vivant, Il a eu des liens étroits avec la Fondation MAG qui lui a prêté son atelier de gravure. On parlait tout à l'heure des nuits de la Fondation MAG. Et ensuite, il a enseigné à la Villa Arson, donc l'école d'art à Nice, entre 70 et 91. C'est lui qui a créé le premier studio son dans cette école, qui a fait de ce lieu un endroit pilote pour la création sonore. C'est quand même très très important, une mission de transmission essentielle. C'est quelqu'un qui a été en rupture complète avec le marché de l'art, notamment des années 80, même s'il a eu quand même quelques collaborations occasionnelles avec Denise René et Iris Claire, notamment. Mais tout en étant un peu en retrait du monde, il a toujours été dans une extrême proximité avec tout ce qui a été le plus à la pointe de la création qu'il a pu fréquenter. Il y a un texte intéressant qui parle de sa proximité avec le groupe OT à Milan, donc un groupe d'artistes qu'il a été voir sur les conseils de Bernard Venet, j'imagine, dans une proximité du sud comme ça, puisque Bernard Venet était à Niçois également. Donc voilà, c'était quelqu'un qui était toujours dedans et dehors. Et effectivement, hommage à nouveau à la galerie Fabienne Leclerc qui a su ressortir son travail de l'oubli et le montrer aujourd'hui. Je voudrais revenir aussi à cette manière d'être entre les catégories de Lars Fridrikson. Entre la présence et l'absence, entre le visible et l'invisible, entre le dedans et le dehors, qui me semble quelque chose d'extrêmement contemporain comme vision de la création, Et je voulais citer une phrase que je trouve absolument magnifique, parce qu'il a aussi traduit des poèmes en suédois, et il dit « Traduire, c'est une bonne façon de lire. Peut-être ceci est aussi ma façon de dessiner pour l'instant. » Je trouve ça extrêmement passionnant.
Oui, c'est vrai que ce retrait organisé, je ne sais pas, mais en tout cas choisi, parce que c'était quelqu'un, alors il se trouve, bon, c'est comme ça, ça ne m'arrivera pas souvent, mais comme c'était un très bon ami de mon père, j'ai bien connu Lars Fredriksson quand j'étais petit, moi j'ai vu ses œuvres-là dans son atelier, j'ai retrouvé son fils Gaël qui s'occupe très 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 bien de l'œuvre de son père et de la faire mieux connaître. C'était drôle parce qu'on ne s'était pas vu depuis 40 ans, je pense. C'est comme ça, mais retrait du monde parce que pas envie d'être dans du marché, pas envie d'être refaire la même chose pour être identifié et donc être vendable plus facilement, repérable par les collectionneurs. Mais c'est vrai que la proximité, non seulement avec les artistes, mais quand même aussi avec tout un cercle, on va dire, poétique autour de Claude Royer-Journeau, de Jean Dev et de gens comme ça qui effectivement étaient plutôt des gens des marges, des bas-côtés, des francs-tireurs et qui n'étaient pas dans un moule, on va dire, tout à fait commercial. Mais je reviens quand même sur la question des peintures, notamment, qui est effectivement sans doute ce qui a été le moins montré, si on peut connaître les inox, ou qui sont peut-être les plus spectaculaires et à juste titre. Les peintures, il y a quand même aussi une chose qui m'est vraiment apparue de façon assez frappante dans l'exposition, c'est quand même quelque chose qui a trait à un goût de l'Orient, du Japon, du dénuement, du vide, parce que ce travail sonore, c'est quand même plein de silence aussi. C'est une chose qui est importante. Et d'ailleurs, je le redirai tout à l'heure, mais dans le catalogue de l'exposition, il y a un CD d'œuvres sonores de Lars Fredriksson. Et ça, c'est vraiment... Il faut prendre le temps, se poser, sans doute avec un casque d'écoute pour bien en profiter. Mais il y a quelque chose de cette attitude presque zen, d'être à l'affût de ce qui va se produire. Et c'est pas étonnant d'ailleurs que, au-delà de la référence au Japon, que Sony, l'entreprise Sony, a invité Lars Fredriksson en 1969 à exposer à Tokyo, parmi les quelques créateurs les plus novateurs de cette époque. Mais c'est quelque chose qu'il aurait pu poursuivre dans cette voie-là. Il l'a fait une fois, il l'a plus fait. Enfin, il y a quelque chose de... pas d'une volonté d'échec, certainement pas, mais en tout cas pas une volonté de succès qui se manifeste dans une recherche très, finalement, assez radicale. Frédéric Bonnet ?
Oui, mais je crois précisément que quand on a décidé de toucher un petit peu à tout, comme je l'ai indiqué en préambule, il est difficile d'imprimer une trajectoire, en particulier de son vivant. Et effectivement, c'est une attitude qui va contre le marché, qui va contre une certaine forme de reconnaissance, tout simplement. Moi, ce qui m'est apparu assez flagrant dans l'exposition et que je n'avais pas vu auparavant dans son travail... c'est que j'ai le sentiment qu'il y a sous-jacent absolument partout une question centrale d'une plasticité des flux qui va prendre des formes multiples, mais qui va trouver une forme de cohérence dans une présence plus ou moins marquée du corporel. Alors, elle n'est jamais là, présente physiquement, mais il y a quand même toujours quelque chose de cet ordre-là. Quand il fait du son, ça n'est pas de la musique, c'est du bruit. C'est de la perception. On va vous mettre dans un espace vierge et on va vous faire entendre quelque chose qui va avoir un effet sur votre cerveau et sur votre physique, si vous y restez un moment.
Quand c'est vous le cas regardez... des inox aussi. Hein.
Exactement. Quand vous regardez les inox, j'allais en venir là-dessus, il y a une présence physique, je trouve, mais que j'avoue, je ne l'avais pas vue auparavant comme ça, mais je trouve qu'il y a une présence physique dans la manière dont tout cela est gravé. Je parlais des fax, il y a une sorte de présence fantomatique qui sourd complètement de ces visuels qui n'en sont pas vraiment, il y a une présence qui n'est pas là non plus complètement. Enfin voilà, je trouve qu'il y a une sorte d'ectoplasme corporel qui flotte à travers l'exposition et que c'est très intéressant.
Sarah Hellermeyer, rapidement.
Oui, totalement. Je rebondis totalement sur ce que vous dites, Frédéric, parce que j'ai moi-même eu l'impression qu'on était amené en fait à se laisser traverser par ces flux d'énergie et ces vibrations qui sont au cœur du travail de Fredrickson. Et il y a cette idée chez lui qui est importante aussi, c'est que ces phénomènes vibratoires et ondulatoires sont impalpables, mais pourtant en fait ils constituent la réalité dans laquelle on baigne. Et ça, je trouve qu'on en fait particulièrement bien l'expérience avec ces plaques en inox, qui sont donc les grandes plaques qui martèlent, qui poinçonnent, qui les raillent et qui englobent l'espace dans lequel elles se trouvent, nous englobent également, nous déforment, comme si on se retrouvait dans une sorte de vortex spatio-temporel ou dans un champ ondulatoire. Donc je vous rejoins complètement sur cette idée d'ectoplasme qui traverserait l'exposition.
On doit s'arrêter là pour cette exposition Lars Fredriksson qu'on peut voir jusqu'au 22 mars au MAMAC à Nice. Le catalogue que j'évoquais est publié par Mousse Publishing et le nouveau Musée National de Monaco. Catalogue donc dans lequel on trouve un CD d'œuvres sonores de Lars Fredriksson. Et puis je crois qu'il y aura bientôt en effet une exposition de Lars Fredriksson à la Galerie In Situ chez Fabienne Leclerc. L'occasion d'en reparler peut-être. On va parler dans cette suite d'émissions d'Eugène Frey, Sol Calero. Et nous aurons un journal de la dispute.
France Culture. La dispute. Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute art plastique, et on reste sur la Côte d'Azur, à la Villa Paloma cette fois, au nouveau Musée National de Monaco, pour une véritable découverte, en ce qui me concerne, mais je pense que c'est le cas pour la plupart quand même, celle du travail d'Eugène Frey. Eugène Frey, c'est un inventeur, concepteur des décors lumineux, une technique scénographique élaborée en 1900, qu'il mit en œuvre notamment et essentiellement à l'Opéra de Monte-Carlo entre 1904 et 1938. Célia Bernasconi, qui est la commissaire de cette exposition, non contente de mettre au jour cet artiste, a eu l'intuition de proposer à l'artiste contemporain portugais João Mário Gusmão de montrer ses propres œuvres lumineuses tout au long du parcours de l'exposition. Premier tour de table pour un premier avis sur cette exposition qui réunit donc Eugène Frey et João Maria Gusmão. Freda Ekpone.
Une merveille de romantisme à la fois sombre et éclairée.
Sarah Hellermeyer.
Une très belle exposition qui donne envie de remonter le temps.
Hein ? Qu'est-ce qu'on trouverait ? Annaëlle Pijat.
Une recherche historique passionnante qui rencontre une intuition poétique géniale.
On va être encore un peu d'accord, je le crains. Bon, Frédéric Bonnet, le principe peut-être du parcours de cette exposition, puisque deux artistes, l'un d'hier, très lointain hier, et l'autre d'aujourd'hui, s'y côtoient.
Oui, et c'est ce que fait très bien et assez régulièrement le nouveau Musée National de Monaco, hein, qui a ses très bonnes intuitions de faire se rejoindre des artistes de générations, voire d'époques très 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 différentes. Et c'est toujours très finement conduit, et ça l'est encore une fois avec cette exposition. Juste pour revenir un tout petit peu sur le travail de Frey, ce qu'il appelait des décors lumineux à transformation, ce sont des tableaux peints sur verre, exécutés à la main et qui sont projetés par transparence à l'aide d'appareils sur un écran blanc. Mmh. Donc en fond de scène, mmh. En général.
La machinerie est à l'arrière de la scène.
La machinerie est à l'arrière, ça projette sur un écran blanc scène, ouais. Et le reste de la scène est éclairé de manière tout à fait normale.
Tableaux lumineux qui peuvent être animés, qui
Absolument.
Plus est.
Et donc les principes d'accrochage de cette exposition, c'est un parcours assez libre où les œuvres de Frey sont mises en relation avec celles de certains de ses contemporains et aussi avec celles d'artistes qui sont nos contemporains à nous, en particulier, vous l'avez mentionné, João Maria Gusmão, s'opèrent sur les trois étages de la Villa Paloma, des regroupements autour des projets et des mises en scène de Jeanne Frey. Donc on retrouve des plaques de verre, des dessins, des gravures, des maquettes de scènes ponctuellement des interventions de Gusmão qui a créé pour l'occasion, je crois que c'est 9 œuvres qui sont également des projections. Alors, Gusmão, là aussi, pour replacer un petit peu son travail, il travaille souvent en binôme avec un autre artiste portugais qui s'appelle Pedro Paiva, et ils font ensemble un travail de film et un travail de film qui est basé pour l'essentiel sur des questions de perception à la fois visuelle et cognitive. Ils essayent de démonter un petit peu le mécanisme et le contenu de l'image. Et ce qu'a fait Gusmão dans ce cadre-là, c'est donc de s'inspirer des systèmes de Frey pour créer plusieurs animations, on va dire, qui rythment le parcours. Mais quand je disais qu'on retrouvait aussi d'autres artistes contemporains, on trouve une magnifique projection d'un film de Lourdes Castro, autre artiste portugaise, où on trouve une très belle installation de l'allemande Peter Feldman, par exemple.
Qui nous accueille grandement. Pour poursuivre cette discussion autour de cette exposition Nouveau Musée National de Monaco, Sarah Ellermeyer.
Oui, alors quand je disais que c'est une exposition qui me donnait envie de remonter le temps, c'est parce que comme l'a décrit Frédéric, on a ici en fait affaire à toutes les étapes préparatoires et aux éléments qui constituent les décors lumineux de Jeanne Frey. Donc on est très content de les voir, ils sont magnifiques. Néanmoins, les décors lumineux à proprement parler ne sont pas réactivés, sans doute parce que la machine n'existe plus. On peut la voir en photographie au début de l'exposition.
Il n'y a plus de machine, oui.
Il n'y a plus de machine, ça serait peut-être trop cher. Et puis aussi, c'était aussi un spectacle vivant, finalement, avec des personnes qui animaient, qui déplaçaient les plaques, les peintures sur verre. Donc néanmoins, il y a l'artiste portugais qui est invité, João Maria Gusmão. Donc il est invité à créer des dispositifs qui rejouent les principes des décors lumineux. Donc c'est des interventions qui sont tout à fait belles, pertinentes et opportunes. Elles permettent en quelque sorte de vivre par procuration, gérer les décors de Jeanne Frey. Néanmoins, il n'en partage pas totalement l'esthétique, ni me semble l'ampleur. Donc de ce point de vue-là, je reste un peu sur ma faim, mais c'est pas un défaut. Hein, ça montre le plaisir qu'on peut avoir à découvrir toutes ces étapes préparatoires et qui nous permettent d'ailleurs de découvrir une esthétique à laquelle on est peu habitué, surtout peut-être en tant qu'adulte, qui serait l'esthétique de la fantasmagorie ou de la féerie qui est liée justement au principe de la lanterne magique que réactive Jeanne Frey et qu'on pourrait caractériser par des apparitions, des métamorphoses et des disparitions aussi bien de figures spectrales et légendaires qui proviennent de contes et de légendes que d'effets climatiques et atmosphériques en variation continuelle. Mmh. Et de ce point de vue-là, il y a un véritable lien qui est fait d'ailleurs dans l'exposition avec Georges Méliès, qui est l'exact contemporain de Jeanne Frey, et qui a lui-même travaillé dans des théâtres, où il réalisait des spectacles mixtes entre le cinéma, le théâtre et la magie, et qui, de la même manière que Jeanne Frey, a choisi de développer non pas une forme d'illusion réaliste, comme cela était le cas par exemple avec les Frères Lumière au même moment, mais au contraire cette esthétique de la fantasmagorie. Et puis il y a également un lien qui est fait que je trouve tout à fait pertinent avec Loy Fuller, qui est également une des contemporaines de Jeanne Frey et qui produisait donc, comme vous le savez sans doute, ce qu'elle appelait des ballets ou des féeries fantastiques, c'est-à-dire des chorégraphies qui consistent à agiter des voiles avec des baguettes qui sont éclairées par une lumière aux teintes changeantes, de manière justement à produire des formes qui sont en constante métamorphose. À la fin de sa vie, elle a réalisé des films pour poursuivre ce travail sur le mouvement, la couleur et la lumière. Donc on voit pas ces films-là, on voit un film qui a été réalisé par contre exactement sur le même principe par une de ses plus fidèles imitatrices qui s'appelle Annabelle Whitford Moore. Et le film est absolument magnifique, c'est un des premiers films en couleur dont on voit d'ailleurs... qui est colorisé exactement à la main. Ouais. Donc en tout cas, il s'agit de trois artistes, Fuller, Méliès et Eugène Frey, qui ont choisi de développer une esthétique hybride au profit de la féerie en mélangeant techniques nouvelles et artisanales de manière complètement expérimentale. Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir.
Mais c'est vrai que Eugène Frey a eu aussi pendant 2 ans un théâtre à Paris, je crois que c'était vers la place de Clichy, où il présentait déjà ses dispositifs et qu'il y avait même un programme d'une soirée spéciale à l'Opéra de Monte-Carlo où c'était une soirée qui destiné à montrer ces installations, et il y avait des airs d'opéra qui étaient chantés, mais la soirée c'était surtout de voir ces décors lumineux d'un tableau à un autre. Annaël Pigeat.
Pour revenir à ce que disait Sarah au début de son intervention sur le décalage entre l'esthétique de Jean-Maria Gusmão et celle de Eugène Frey, au contraire, je la trouve géniale parce que je voudrais revenir aussi sur le caractère de découverte de cette exposition. C'est-à-dire que les commissaires, et la commissaire de l'exposition, Célia Bernasconi en particulier, s'est trouvée face à un ensemble d'œuvres colossales, des centaines d'images, qui provenaient du musée de Chalons, Nicéphore Niépce, et de la Société des Bains de Mer et de Monte-Carlo, enfin du musée de Monaco.
Sans trop savoir ce que c'était.
Exactement,
enfin, en tout cas, au musée Niépce, visiblement, il n'avait aucune idée de ce qu'il y avait dans ses boîtes.
La Cinémathèque ne connaissait pas Eugène Frey.
Et elle en possède pourtant des plaques.
Et elle en possède pourtant, absolument. Et je crois que Laurent Manoni, dans le catalogue, apparaître ses prix de passion pour le sujet. Mais c'est vraiment un chantier de découverte totale. Et donc, il y a eu un travail d'identification des documents considérable. Et ça donne à l'exposition un caractère assez technique qui est tout à fait passionnant. Il y a un côté physique amusant, presque, dans laquelle on rentre vraiment dans le processus de fabrication d'Eugène Frey, le mélange de la photographie, de la peinture, du collage, des rails, des moteurs. Et il y a même un certain nombre de documents qui portent une certaine ambivalence, en particulier des photographies de plateau, dont le temps de pose est très long, donc sur lesquels on voit des fantômes de personnages qui sont en eux-mêmes des images très très belles.
Ah, il y a une salle comme ça extraordinaire.
Voilà.
Ouais. Et en évocation, on parlait des fantômes de Lars Fredriksson, là il y en a des fantômes.
Absolument, voilà, absolument. Ouais. Et quand Frédéric parlait aussi du lien avec le monde contemporain que crée souvent le musée de Monaco, finalement Eugène Frey, avec sa voix très singulière, qui n'est ni celle du pré-cinéma, ni celle des lanternes magiques, ni celle du cinéma de Méliès, mais sa voix à lui, ouvre finalement, après le cinéma expérimental, dont le musée de Monaco est aussi familier de par l'histoire de ses collections, Eugène Frey ouvre en quelque sorte à la présence de la vidéo dans l'opéra contemporain.
C'est vrai que j'aime assez qu'on puisse pas avoir ces décors lumineux, que la machine ait été perdue, parce que on a tous les éléments, y compris des fois les travaux préparatoires simplement, jusqu'aux plaques de verre avec une délicatesse dans la peinture des Valkyries ou autres figures qui servaient, ces décors et ce cinéma, on se le fait nous-mêmes aussi. Frédéric Bonnet.
On se le fait nous-mêmes, mais aussi il y a quelques œuvres, quelques documents qui sont assez scotchants, entre guillemets, si j'ose dire, dans l'exposition. Notamment, il y a ce film de Lotte Reiniger, je ne connaissais pas.
Ah ben, il est ressorti en vidéo, on en a parlé dans la dispute, DVD, voilà. Il y a quelques mois.
Les aventures du prince Ahmed, un film muet en couleur de 1926, ça aurait pu être fait l'année dernière, quand on regarde ça. Et précisément, moi, ce qui m'intéresse dans la dichotomie temporelle qui existe dans cette exposition, c'est que Guzmán a évité, Jorge Maria Guzmán a évité de se calquer précisément à Eugène Frey. Il s'est tout de suite distancé d'avec l'iconographie symboliste et romantique qui est la sienne pour réactiver des principes techniques et une mise en relation visuelle, mais en n'entrant pas après dans le fond de la question. Et Moi, j'aime assez bien ce qu'il a fait. Alors, il y en a que je trouve mieux que d'autres, mais j'aime assez bien les œuvres qu'il a créées pour l'occasion, qui ont tout en commun d'être de venir s'interroger sur la représentation, la perception du monde, venir sonder les mécanismes de l'œil et de l'esprit avec des procédés qui sont assez différents.
Le DVD de Les Aventures du Prince Ahmed, c'est chez Carlotta qu'on peut le trouver, donc il faudra que je vous l'offre.
Avec plaisir.
Peut-être pas pour Noël, ça se ferait un peu dans longtemps. Dernier petit mot, Sarah Ellermeyer.
Oui, je crois que cette exposition, elle est aussi intéressante d'un point de vue historiographique, parce que donc on a affaire à une pratique qui est hybride, qui est entre le théâtre, la peinture, la photo et le cinéma. Et c'est justement parce que c'est une pratique hybride qu'elle a été oubliée, évacuée de l'histoire de l'art aussi bien que de l'histoire du cinéma, qui fonctionne, comme on l'a dit tout à l'heure, par catégorie. Mais si Jeanne Frey et sa pratique a été en particulier oubliée de l'histoire du cinéma, c'est parce que, il faut peut-être le rappeler, c'est une histoire qui a longtemps été gouvernée par une vision téléologique, selon laquelle eh bien, il y aurait un sens de l'histoire qui serait marqué par différentes évolutions et progrès techniques qui nous feraient passer des techniques dites pré-cinématographiques au cinéma de la prise de vue réelle. Et donc face à cette vision, il y a une toute autre démarche qui est justement celle de l'exposition et qui consiste à considérer qu'il n'y a pas de progrès en art, hein, ce qui peut paraître évident, mais bon, et qu'il existe donc une pluralité de médias et de techniques qui peuvent se succéder dans le temps tout en coexistant. Pourquoi ? Parce qu'elles proposent des esthétiques et des effets qui leur sont propres et qui ne sont pas remplaçables. Et de ce point de vue-là, on peut considérer que la prise de vue réelle n'est qu'une version possible du cinéma qui coexiste avec le cinéma d'animation, qui malheureusement reste toujours déconsidéré par rapport au cinéma de prise de vue réelle. Et cette exposition, justement, comme en parlait Frédéric, elle montre un grand nombre de films d'animation qui sont contemporains de Jeanne Frey et du cinéma de prise de vue réelle, mais aussi des films d'animation contemporains. Il y en a un en particulier que je ne connaissais pas du tout, qui est les films d'Alexandre Alexeïev, qui sont des films d'animation avec des écrans d'épingles qui datent des années 30 et qui sont absolument incroyables. Et c'est vrai qu'on sort de cette exposition en disant qu'on a envie d'en voir davantage.
C'est vrai que le Théâtre d'Ombre, il y a une petite salle de décor de Michel Oslo qui sont mises en lumière, on voit que Les Aventures du Prince Ahmed, Michel Oslo, voilà, même technique, même émerveillement aussi. Bon, il y aurait beaucoup à dire, mon doigt. Là aussi, s'arrêter concernant variations, les décors lumineux de Jeanne Frey. C'est jusqu'au 20 mai au nouveau musée national de Monaco. Y a-t-il un catalogue ? Je me pose la question. Pas encore, mais il arrivera.
Il arrivera.
Et tant mieux. On découvrira ça. On reste encore sur la Côte d'Azur, qui a dit que la dispute était parisianiste. On va à la Villa Arson, dont on parlait tout à l'heure, l'école d'art de Nice, pour une exposition dont nous parle Frédéric Bonnet, c'est son coup de cœur.
Oui, je me suis dit que c'était bien de rester dans la région et d'aller à la Villa Arson, voir cette exposition de Sol Calero, qui est une artiste née au Venezuela en 1982, qui maintenant vit à Berlin. Alors si je veux la jouer cliché, je vais dire que c'est une exposition fraîche et colorée. Mais justement, c'est une exposition fraîche et colorée qui se joue habilement des clichés associés à l'Amérique du Sud et à la manière dont on la regarde. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans le travail de Sol Calero, c'est qu'elle déjoue la notion d'exotisme dans des peintures de paysages ou des natures mortes, à la touche qui est toujours très légère, mais qui sont faussement naïves. Ce qui m'intéresse aussi beaucoup dans son travail, c'est que elle ne fait pas que de la peinture pour de la peinture, mais qu'il y a toujours un objet et un contexte. On a connu Sol Calero refaire des environnements complets, une cuisine, un salon de coiffure, d'autres types de commerces. Et alors ici, cette exposition, elle découle d'une résidence qui a de quelques mois à la Villa Arson. Je voudrais citer le titre assez étrange d'exposition. Ils ont insisté pour couvrir les fissures, mais les murs transpiraient toujours. Et quand je dis que Sol Calero s'intéresse au contexte, c'est que pendant qu'elle était en résidence, il y a eu des orages, des pluies diluviennes à la Villa Arson, le centre d'art a pris l'eau, et donc elle a constater non seulement l'inondation, mais l'effritement des murs, et elle a décidé d'en faire un cadre et un objet pour son travail. Et donc, elle a gardé certains de ces murs abîmés. Elle a même contribué à les dégrader encore plus. Il y en a un notamment complètement troué, complètement mité, sur lequel elle a accroché des petites céramiques qui sont des sortes d'amulettes. Je pense que ça vient un petit peu du Pérou. Elle a dû retrouver, parce qu'elle était beaucoup intéressée par des ex-voto qu'elle a vus au Pérou. Et donc, elle mélange comme ça des approches diverses. Il y a une dimension syncrétique dans son travail qui s'exprime dans la conception de véritables environnements où se mêlent ses souvenirs, ses racines et ses propres pérégrination. Voilà, je trouve que c'est une exposition très bien accrochée, finement pensée, qui mérite une visite.
Comme ça, on va voir Lars Fredriksson, on va voir Jeanne Frey, et jusqu'au 3 mai, on peut voir Sol Calero à la Villa Arson à Nice. Mais ne serait-ce pas le journal de la dispute ? Ne serait-ce pas Lucille Gougoumeau qui ce soir nous parle d'art en grève en trois mots ?
Oui, on a vu fleurir à l'orée du grand mouvement de contestation sociale il y a quelques semaines ce syntagme tout simple, art en grève, dans les manifestations et dans plusieurs rassemblements devant des institutions culturelles de la France entière. L'appel a été lancé début décembre et rassemble des artistes de toutes disciplines, des collectifs ou des personnes. Beaucoup, il faut le dire, issus des arts plastiques, peintres, curateurs, plasticiens, photographes, performeurs. Ils s'appuient sur un court texte mobilisateur, je vous en livre un extrait. Nous avons les mêmes intérêts que l'ensemble des travailleurs et travailleuses qui, dans les différents secteurs de la société, vont se mobiliser pour défendre des droits remis en cause au nom d'une idéologie qui confond intentionnellement libéralisme économique et liberté individuelle. Pour des raisons historiques, les artistes sont hélas à l'avant-garde de l'absence de protection sociale et, au nom de leur passion ou de leur engagement, voient ainsi la plupart de leurs activités être non reconnues comme du travail. C'est pourquoi notre lutte pour faire reconnaître nos activités comme productrices de valeurs économiques peut être profitable à toutes et tous. Cela permettrait également de combattre cette idéologie qui assimile l'absence de protection sociale aux notions de liberté, de créativité ou d'autonomie. Fin de citation. La rhétorique est celle bien reconnaissable des tracts militants, et d'ailleurs Art en grève appelle explicitement les participants à se rapprocher des grandes organisations syndicales pour les sensibiliser à des problèmes certes spécifiques mais qui éclairent selon eux de manière critique une précarité galopante et des conditions de travail indignes. Et de fait, les artistes plasticiens aujourd'hui en France vivent mal, naviguent entre des statuts instables quand ils en ont, rarement intermittents, parfois auteurs, payés rarement et à la tâche, forcé de cumuler plusieurs emplois et à la recherche en permanence de lieux pour créer. Leur revenu médian les classe d'ailleurs sous le seuil de pauvreté et pour la sécurité sociale et la retraite, puisque le combat était d'abord celui-là, c'est la croix et la bannière. Il est intéressant que Art en grève fasse de cette notion d'avant-garde une notion littérale, une position au sens propre dans l'espace des contestations et des manifestations, celle de la tête de cortège, du porte-parole. Intéressante aussi la manière dont la presse généraliste s'en fait l'écho, quand elle s'en fait l'écho, ce qui est rare. On a beaucoup parlé des actions à l'Opéra de Paris, dont les moyens en termes de visibilité sont énormes. Ils peuvent rendre virale la vidéo d'un lac des cygnes donné sur le perron de Garnier pour défendre la spécificité de leur retraite, et ça fonctionne très bien auprès de la presse et du public. Les artistes plasticiens qui protestent sont moins glamour, on relève ça ou là, une ou deux petites interviews dans le cortège, on sent les journalistes ravis de commenter l'inventivité ou la beauté de leurs pancartes, ça change de la CGT. Bref, il y a une forme de folklore dans cette appréhension quand ce n'est pas du mépris. Pour autant, si la mobilisation globale faiblit. Art en grève continue à mener des actions sur tout le territoire. À Nantes, il y a quelques jours, l'organisation locale a investi le musée d'art et distribué des tracts aux visiteurs au cri de « L'argent de vos visites ne ruisselle pas jusqu'à nous ». Alors que le grand mouvement de contestation de la réforme de retraite cherche de nouvelles formes, il me semble que cette organisation révèle quelque chose d'assez enthousiasmant et qu'il se pense peut-être cette fameuse convergence dans l'idée de faire le lien entre des statuts, des précarités aussi différentes que celles d'un jeune artiste plasticien qui sort d'école ou un vieil auteur de bande dessinée qui cumule les emplois alimentaires. Alors que vous en semble-t-il, vous qui fréquentez plus que moi ce milieu où la notion même de droit du travail a si peu cours?
Eh bien, là il faut 4 heures, tombe bien, au on moins. A 9 minutes, c'est merveilleux. Mais on avait beaucoup de choses à dire sur notre sommaire ce soir. Qui se lance? Sarah Ellermeyer.
Donc la question était comment est-ce qu'on ressent ça, enfin comment est-ce qu'on le perçoit. En tout cas, pour ma part, l'action d'Art en Grève me paraît essentielle parce qu'elle permet aux acteurs du milieu de l'art et de la culture de se joindre à une contestation générale actuelle, hein, qui ne concerne pas que le milieu de la culture, et qui voit d'un côté des bénéfices de plus en plus importants du côté des grands investisseurs qui participent par ailleurs de moins en moins au système de solidarité, et de l'autre des personnes qui sont celles qui produisent justement la richesse, mais pour laquelle la richesse ne ruisselle pas, hein, contrairement à cette idée reçue. Et qui au contraire se retrouvent paupérisés aussi bien dans leurs revenus que dans leurs droits sociaux. Donc ce que pointe plus précisément Art en Grève, c'est que la culture est une source de valeur économique en France, puisqu'elle représente, alors corrigez-moi si je me trompe, mais 2,2% du PIB, et que néanmoins, eh bien, les artistes, du moins la plupart d'entre eux, sont les plus précaires au sein de cette chaîne de production, alors qu'ils en sont au cœur. Donc Art en Grève, face à ça, propose différentes préconisations, et qui sont d'aller au-delà de chartes et de bonnes pratiques et de bonnes conduites qui consistent par exemple à payer les artistes pour les expositions où leurs œuvres sont montrées, ce qui est loin d'être le cas.
De système de droit d'auteur finalement.
Oui, du droit d'auteur, mais en fait toute la question d'Art en Grève, c'est d'aller plus loin que le droit d'auteur, hein, parce que le droit d'auteur, comme cela est bien précisé, garantit très peu de droits sociaux, c'est-à-dire que par exemple il n'y a pas d'indemnité en cas d'accident du travail, en cas de maladie professionnelle, il n'y a pas d'indemnité, il n'y a pas d'assurance chômage. Donc l'idée, c'est d'aller au-delà du statut du droit d'auteur, parce que il se trouve que c'est tout ce que propose, il se trouve, la mission Racine, c'est justement de renforcer ce statut-là, alors qu'il faut redéfinir le statut d'artiste.
Honoré Racine qui vient de rendre un rapport au ministère de la Culture,
voilà,
sur cette question-là, notamment.
Exactement. Et donc l'idée, en tout cas, de ce que j'ai pu comprendre, de ce que j'ai lu, hein, parce que ça, c'est assez complexe, c'est d'étendre peut-être, par exemple, le statut des intermittents aux artistes qui se situent du côté des arts visuels. Peut-être aussi de mettre en place des taxes qui viendraient ponctionner, de la même manière qu'au cinéma, chaque billet acheté est ponctionné et la somme retenue part dans les caisses du CNC. Donc l'idée serait peut-être
pour
de ponctionner les gros,
ben
voilà, exactement, de ponctionner les grosses institutions, publiques comme privées, peut-être même les transactions financières, de manière à ce que l'argent soit mis dans une caisse qui soit redistribuée de manière plus, on va dire, égalitaire.
Frédéric Bonnet.
Oui, moi, ça ne m'étonne pas que ce mouvement se cristallise aujourd'hui au moment des crispations sur la réforme des retraites, parce que précisément, je crois que la question qu'il pose, c'est la notion de travail. Qu'est-ce que le travail? Qui a du travail aujourd'hui? Et que ces mouvements vont au-delà. Vous avez parfaitement bien parlé, Sarah, du problème des artistes, qui sont des problématiques réelles, mais ça va au-delà des seuls artistes, parce que la culture et la création, ça englobe aussi les écrivains, les auteurs, les critiques, les illustrateurs. On va parler peut-être de nous quelques minutes, mais les auteurs sont excessivement maltraités aussi dans le système actuel. Le Centre Pompidou paye moins de 40 euros le feuillet pour ses catalogues. Ça ne dira rien à nos auditeurs, c'est un tarif scandaleux. Véritablement scandaleux. Avec tout ça, évidemment, aucune forme de protection, ni rien du tout, comme vous le disiez, pour les artistes. Cette maison Radio France n'est pas non plus exempte de critique, puisque nous avons appris que suite aux grèves des mois passés, nos piges ne seraient pas payées, alors que c'en est d'usage, puisque nous préparons nos interventions. Nous sommes prévenus seulement quelques heures avant l'émission, et donc il était d'usage d'usage que nous soyons payés en cas d'annulation de l'émission. Là, on vient d'apprendre que la direction voulait tout simplement ne pas nous payer et qu'il a été obtenu de haute lutte que finalement nous soyons grassement rémunérés à 50% de nos piges habituelles. Donc, tout ça, c'est un système assez généralisé qui craque de partout les artistes et les professionnels du milieu de la culture sont depuis toujours des précaires et ils rejoignent de manière très logique un mouvement de contestation d'une précarisation généralisée.
Lucille, comment ?
Mais vous dites de manière très logique. Moi, de ma maigre expérience à la fois de la contestation sociale et de la question des artistes dans cette contestation, j'ai pas l'impression que ça ait toujours été le cas. C'est-à-dire que cette convergence-là, justement, entre des intérêts extrêmement prosaïques, la retraite, le droit à la sécurité sociale, évidemment la question de la précarité, n'a jamais, de mon expérience, été aussi bien mise en lien avec la précarité de manière générale et avec le droit du travail très concret.
Elle n'a jamais été audible parce que les cultureux, entre guillemets, ont toujours été un peu les amuseurs de service.
Annelle Pigeat.
C'est-à-dire que l'idée dans laquelle les artistes ont la chance de vivre avec leur passion et donc l'amour et l'eau fraîche, c'est bien, est quand même une très vieille idée qui continue d'exister, enfin qui continue de planer sur tout ça. Je voulais dire aussi que c'est... métiers d'artiste sont des choses qui changent aujourd'hui. C'est-à-dire que les artistes d'aujourd'hui ont des activités qui se rapprochent presque parfois de prestations de services. C'est un monde de nouveau dans lequel on se trouve. Et donc, c'est aussi des questions. Il y a des questions anciennes et puis il y a des questions nouvelles qui nécessitent des adaptations et des constructions, en fait.
Par exemple, vous parlez de prestations de services, c'est quoi?
Par exemple, les liens entre les arts visuels, les arts de la scène, le cinéma, tout ça, ce sont des économies qui sont assez différentes les unes des autres et qui soulèvent un certain nombre de questions. Ensuite, Art en Grève regroupe un nombre d'activités et de types, de métiers extrêmement différents, parce que si on regarde la liste des signataires, il y a les artistes, il y a les commissaires d'exposition, il y a des critiques d'art. Donc tout ça, c'est des questions qui sont extrêmement différentes, qui se posent d'un cas à l'autre de façon assez différente. Ensuite, je crois que il y a eu des annonces qui ont été faites hier par Franck Riester en réponse à tout cela. Je vais pas du tout les énumérer parce que elles sont nombreuses et elles sont assez, je pense qu'elles mériteraient d'être analysées pour être vraiment, vraiment comprises avec plus de temps que nous n'en avons là. La question du droit d'exposition, qui est essentielle pour les artistes, figure au premier rang de ces annonces, et ça, c'est vraiment très important, ainsi que la question du lissage du revenu des artistes. Ensuite, il y a aussi des questions, par exemple, sur la rémunération des directeurs de collection dans le monde de l'édition. Là, on passe dans un monde complètement différent. Juste une chose que je voulais signaler, que j'ai trouvé très intéressant dans tous ces phénomènes d'art en grève, vous en avez parlé, c'est la manière dont le ballet de l'opéra a été efficace dans sa manière de se faire entendre. C'est le seul cas dans lequel, me semble-t-il, on a été face à de l'art. Et je trouve ça intéressant. Et je trouve ça pose la question de savoir à quel point l'art peut ou pas être un outil dans la vie publique.
Voilà. Ouais, ils ont pas les mêmes moyens.
Il faut la nuit aussi, là.
Voilà. Je voulais dire un tout petit mot, Frédéric Bonnet.
C'était juste un mot par rapport à l'intervention du ministre de la Culture. La revendication de longue date des auteurs pour se voir attribuer 10% des droits sur les œuvres n'a pas été retenue. Et elle figurait dans le rapport Racine.
Oui, on va sans doute
reparler du rapport Racine, d'ailleurs, jeudi prochain, sur la bande dessinée, le cas particulier de la bande dessinée.
Bon, on pourra déployer dans toutes les disciplines. On va voir si la contestation va faillir ou faiblir. Pour reprendre votre lapsus, ma chère Lucille. Et avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute, Lola Schedler nous a rejoint, qui va nous rappeler tout d'abord la question de jeu d'hier, nous donner sa réponse.
Qui est l'interprète de la chanson du générique du prochain James Bond? Et la réponse est Billie Eilish.
Ce soir, nous avons gagné des invitations pour aller voir le spectacle Péléas et Mélisande, la pièce de Maeterlinck, mise en scène par Julie Duclos. C'était aux ateliers Berthier à l'Odéon à Paris. Des places à gagner pour mercredi 26 février, c'est à 20h. Quelle est la question?
Qui interprète Péléas au Vaudeville Théâtre de Londres le 2 juillet 1904?
Ok, précis. Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission était préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Sophie-Catherine Gallet, Boris Pinot et Lola Schedler. Prise de son ce soir, Théo Gomard. Réalisation, Alexandre Fougeron. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel on peut réécouter ou s'abonner au podcast de l'émission. On se retrouve demain à 19h pour une dispute littérature en compagnie d'Elisabeth Philippe, Lucille Como et Philippe Chevillé. Nous parlerons du livre d'Hélène Giannichini, Voir de ses propres yeux, de celui de Fiona Mosley, Helmet, et enfin de Joseph Mitchell, Old Mr. Flood. Et puis il y aura un coup de cœur de Philippe Chevillé pour le roman de Till, Ulespiègle, de Daniel Kellman.